Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7. J'ai hésité entre deux sujets. Mais ce soir, on va lire beaucoup de textes. Alors, je ne vous donnerai pas les références pour pas que vous soyez distraits à chercher les différentes références, parce qu'on va en lire beaucoup. Et ça alourdirait le message, mais si vous voulez les références, je vous les donnerai tout à l'heure. Mais on va ouvrir la Bible dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, et on va lire le verset 14. On va lire une prophétie, et vous savez que de tout temps, Dieu a parlé. De tout temps, Dieu a parlé aux hommes, et la Bible nous dit qu'il a parlé notamment au peuple d'Israël, et qu'il lui a parlé par des prophètes. Que dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils, mais qu'il a parlé par les prophètes. Et on voit donc dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, qu'il va dire « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les rois sera abandonné. » Dans cette prophétie, il nous est dit donc que Dieu donnera un signe, c'est que la Vierge deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils et qu'elle lui donnera à ce fils le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Cette prophétie, elle a été écrite à peu près 720 ans avant la venue de Jésus-Christ. Dieu annonce qu'un homme va venir et que cet homme portera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Si on tourne quelques pages et que l'on va dans le chapitre 9, au verset 5, il est écrit, c'est encore Ésaïe qui prophétise, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Donc on voit encore une fois qu'il est annoncé qu'un enfant va venir. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il nous est dit que la domination reposera sur son épaule. Il nous est dit qu'on l'appellera admirable, c'est-à-dire qu'il sera digne d'admiration. Il nous est dit qu'il sera conseiller, qu'il nous conseillera. Il nous est dit qu'il sera Dieu puissant. Et Ésaïe donc prophétise qu'un enfant naîtra et que cet enfant sera Dieu, qui viendra. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Une autre prophétie, ne le cherchez pas, dans le livre de Michée, pareil, à la même période, 700 ans à peu près avant la venue de Jésus, il va dire « Et toi, Bethléem Ephrata, petite ville d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour d'éternité. » Là encore, un autre prophète annonce que d'une ville qui s'appelle Bethléem, d'une ville de Juda, sortira celui qui dominera. Il est donc prophétisé. Dieu annonce, bien des temps avant que Jésus arrive, ne vienne sur terre, qu'il viendra et qu'il y aura un roi qui dominera. On l'a lu dans Ésaïe, la domination reposera sur son épaule. Michée dira, c'est lui qui dominera sur Israël. Et au final, c'est ce qui va se passer. C'est au temps marqué, du temps d'Hérode, voici ce qu'il nous est dit. Un ange va venir voir Marie et va lui dire, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu qui sauve, Dieu sauveur. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. » Donc l'ange annonce que la Vierge va être enceinte. Ce qui a été prophétisé arrive. Dieu vient sur terre. C'est la bonne nouvelle. Il nous est dit qu'il régnera, il aura la domination sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Un règne éternel, comme cela avait été prophétisé. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'autre homme, point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Au même moment, la cousine de Marie, Élisabeth, va être enceinte. Et le père du fils, qui s'appellera Jean-Baptiste, va dire, en parlant du petit enfant, en parlant de Jean-Baptiste, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Donc il va une fois de plus prophétiser en parlant de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste allait préparer le chemin devant Dieu, mais il va nous dire que le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est l'image. Le soleil, c'est ce qui est inaccessible, c'est ce qui est en haut, c'est ce à quoi les hommes n'ont pas accès, qui va les visiter. C'est vraiment l'image de Dieu qui vient sur terre. Lorsque Jésus va naître, que va-t-il se passer? Il nous est dit que des bergers qui vont paître des troupeaux autour de Bethléem, des anges vont venir, un ange va venir. Et il va leur dire aux ces bergers, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, celui qui règne, celui qui a la domination. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Quel comité d'accueil! Tous les anges du ciel, louent le Seigneur à cause de cet enfant qui est né. Il nous est dit aussi que des mages vont venir. Il nous est dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et je vous ferai remarquer que celui qu'on adore, c'est Dieu. Des mages qui étaient en Orient ont compris, en regardant les étoiles, que le roi des Juifs était né et ils étaient venus pour l'adorer. Et lorsqu'ils vont le trouver, il nous est dit qu'ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. C'est-à-dire que ces mages avaient compris que ce petit enfant, qui pourtant était un enfant, il régnait, il avait l'autorité et la domination. Même des mages sont venus et se sont prosternés à la naissance de Jésus-Christ. Jésus est celui qui avait été prophétisé. Jésus est celui qui régnait. Et déjà, à sa naissance, les anges louaient Dieu et des mages, des personnes imminentes d'Orient, avaient fait un déplacement, un voyage extrêmement long et étaient venus se prosterner devant cet enfant. Il nous est dit qu'ils l'adorèrent, ils ouvrirent ensuite leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Plus tard, Jésus commencera son ministère, commencera à exercer son règne, à exercer son ministère à l'âge de 30 ans. Mais le fameux Jean-Baptiste qui préparait le chemin devant lui dira « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » C'est-à-dire que l'homme à qui Jésus plus tard rendra témoignage en disant que c'est le plus grand des prophètes, c'est-à-dire c'est le plus grand parmi les hommes que Dieu a utilisé pour prophétiser, il va dire lui-même « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » C'est-à-dire qu'il avait compris que Jésus avait autorité, que Jésus était celui qui dominait. Et c'est ce qu'il a fait. On lit qu'au début de son ministère, Jésus va se rendre à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. » Donc il va dire que l'Esprit de Dieu était sur lui parce qu'il avait été oint. L'onction, c'est ce qu'on donnait au roi. L'onction, c'était de l'huile qui était versée sur la tête des rois pour qu'ils commencent à régner. Et à partir du moment où ils avaient l'onction, ils commençaient à dominer, ils étaient rois. On voit dans la Bible le roi David, lorsque l'onction lui avait été donnée, Alors, l'Esprit d'Éternel l'avait saisi. Et au final, suite à cette onction, il a commencé à régner, notamment il a terrassé Goliath. Et on va voir que le Seigneur Jésus-Christ va commencer à exercer son règne, va commencer à exercer son autorité, sa domination. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette autorité? Qu'est-ce qu'il va faire avec cette domination? Qu'est-ce qu'un roi aurait fait si on lui avait donné la domination? Il aurait commencé à donner des ordres, non? Imaginez, un ange vient vous dire, ça y est, je te donne tout pouvoir. Qu'est-ce que vous feriez? Déjà, je rafle tout l'argent que je peux, et puis je me fais une grande maison, et puis je fais des nouvelles lois, et puis je fais en sorte que les gens me servent. Mais il va dire que Dieu l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Avec son règne, il va annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avec son autorité, il ne va pas briser les cœurs, mais il est venu pour les guérir. Pour proclamer aux captifs la délivrance, il n'est pas venu pour enchaîner, il est venu pour délivrer les captifs. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés, c'est ceux qui sont tenus captifs par quelqu'un, opprimés par quelqu'un. Il est venu et il va utiliser sa domination pour les délivrer de celui qui les opprime. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il va continuer son discours, mais à la fin de son discours, il est écrit qu'on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Et lorsque les gens voyaient Jésus parler, entendaient Jésus parler, ils reconnaissaient qu'il avait autorité, c'est-à-dire qu'il régnait, qu'il dominait. Et il va commencer. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une autre voix. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Même le démon qui était là face à lui n'a pas pu rester calme. Il a dû se manifester et il a dit qu'il reconnaissait qui il était. Les démons savaient qui il était. Les démons savaient qu'il avait autorité. Jésus le menaça disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et tous furent saisis de stupeur. Et ils se demandaient les uns aux autres « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Il commande aux esprits impurs. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Il avait autorité sur la maladie. Et avec son autorité, il a chassé une maladie. Jésus est celui qui a été annoncé, il est celui qui avait l'autorité, parce qu'il était Dieu. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler. Parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Les démons savaient qui était Jésus. Ils savaient que c'était Dieu. Et ils savaient qu'il avait autorité sur eux. On voit Jésus exercer cette autorité. On a l'exemple de la femme adultère. Lorsqu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère, et à un moment il dira que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Jésus était sans péché. Alors bien sûr, tous les hommes qui avaient amené cette femme ont dû se retirer parce qu'ils étaient pécheurs. Mais lui, Jésus n'avait pas péché. Il avait la pierre et il pouvait la jeter. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit à cette femme, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Avec son autorité, il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour pardonner. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Alors, est-ce que le pardon, ça veut dire qu'on a carte blanche pour pécher? Non. Parce qu'avec son autorité, il a aussi dit, « Va et ne pêche plus. » Il a donné un ordre. Mais il n'a pas condamné. Il a pardonné. Il a pardonné. Et au final, Jésus dira de lui-même, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et on voit donc que celui qui avait été annoncé qui dominerait est venu et qu'il a exercé sa domination. Il a exercé sa domination pour sauver, Il a exercé sa domination pour pardonner. Il a exercé sa domination pour guérir. Il a exercé sa domination sur les démons. On voit un moment qu'il exercera sa domination sur les tempêtes. Les éléments lui étaient soumis. Il exercera même sa domination sur la mort. Il dira à un mort de revivre, et le mort va revivre. Il a exercé la domination. Mais quelle a été la réaction par rapport à cette autorité? Eh bien, certains ont refusé cette autorité. On voit notamment les pharisiens qui viendront le voir et qui lui diront « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» On voit que constamment les pharisiens s'opposaient à Jésus, remettaient en doute l'autorité qu'il avait. Et au final, on voit qu'ils ne voulaient pas se soumettre à lui. Et ils ont tout fait pour qu'il soit crucifié. Mais on en voit d'autres, des disciples qui ont choisi de se soumettre, qui ont cru en Jésus-Christ et qui se sont soumis à cette autorité. Et on voit même que Jésus qui a autorité leur donna autorité. Il est écrit que Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir, on pourrait dire autorité, sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Et on voit au final que Jésus, il a l'autorité et il donne l'autorité. C'est-à-dire qu'il est capable même de donner autorité à ses disciples pour faire ce que lui faisait. C'est le principe de l'autorité. C'est le principe de l'autorité. Mais on ne va pas le développer. Au final, Jésus, quand il parlera de son ministère, va dire aussi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et lorsque l'on voit Jésus qui avait l'autorité, il va dire qu'avec cette autorité qu'il avait, il n'est pas venu pour être servi. Dans le monde, lorsque l'on donne de l'autorité à quelqu'un, quelle est la première chose qu'il fait ? C'est se faire servir. Il exerce son autorité pour lui, pour être servi. Lorsque l'on regarde les rois sur la terre, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils agissent en fonction de leur intérêt. Toujours. De leur intérêt. Les disciples se demandaient qui était le plus grand parmi eux. Le plus grand parmi eux, c'était Jésus. Et que va-t-il faire ? Il nous est dit qu'il va se dévêtir de ses habits, prendre un linge, s'abaisser et laver les pieds de ses disciples. Nous voyons au travers de la vie de Jésus que l'autorité qu'il avait, il n'a pas utilisé pour lui, il l'a utilisé pour nous. Il l'a utilisé pour nous. Et il dira au final que le plus grand, ça sera le plus petit. C'est celui qui s'abaisse. Oui, il est venu pour être non pour être servi, mais pour servir, c'est ce qu'il a fait, mais donner sa vie. Et Jésus dira, en parlant de sa vie, que personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. Jésus avait autorité sur sa propre vie. Personne n'avait autorité sur lui. C'est lui qui avait autorité sur les gens. Et il va dire qu'avec cette autorité, il a le pouvoir. Jésus dira, j'ai le pouvoir de la donner, en parlant de sa vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc on voit que Jésus a autorité sur sa propre vie. Il n'était soumis à personne. Il était libre, il avait autorité, si ce n'est au Père. À un moment, dans le jardin de Gethsémané, alors qu'il choisit d'offrir sa vie, on voit encore qu'il peut exercer l'autorité. À un moment, Pierre, qui n'avait pas tout compris à ce moment-là, a l'idée de défendre son maître. Donc il va prendre une épée et commencer à défendre Jésus. Mais il n'avait pas compris que c'était Jésus qui prenait sa défense à lui. Et d'ailleurs, Jésus lui dira, « Mais penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions ?» On a vu tout à l'heure qu'il dominait sur les démons, mais il domine aussi sur les anges. Il avait tout pouvoir. Et lorsqu'il s'est fait arrêter, c'est lui qui l'a voulu. Au final, les hommes pensaient prendre autorité sur lui, mais c'était simplement Jésus qui offrait sa vie et qui accomplissait le plan qui avait été déterminé et établi par Dieu bien des années avant. Devant Pilate, il nous est dit que les soldats tressèrent une couronne d'épines et lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Mais si ces soldats avaient compris à qui ils s'adressaient et qu'ils avaient devant lui, jamais ils n'auraient fait ça. Et pourtant, ce roi, celui qui a la domination, les tout-pouvoirs, a accepté qu'on se moque de lui, qu'on lui fasse une couronne d'épines, qu'on lui donne des soufflets, etc. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Jésus avait reconnu qu'il était le fils de Dieu devant eux, et pourtant il n'en voulait pas. Il voulait qu'il soit maudit, pendu sur une croix. Parce que ce que les Juifs attendaient, c'était un roi selon leur cœur, c'est-à-dire un roi qui domine sur les gens, alors que Jésus était le roi qui est venu servir et sauver. Donc les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, cette frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Là aussi, Pilate se trompait. Il pensait avoir pouvoir sur Jésus. Mais Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'était Jésus qui régnait, même à ce moment-là, quand il était devant Pilate. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Hôte, hôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » On voit donc que les Juifs, au final, ont préféré un autre roi que le roi qui leur avait été promis, le roi qui dominait. Et au final, nous voyons Jésus qui va accepter, qui va se livrer lui-même, qui va porter sa croix. Au moment où il va être crucifié, il nous est dit que les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » C'est exactement ce qui s'est passé. Il ne se sauvait pas lui-même parce qu'il désirait sauver les autres. C'est ce qu'il a fait. Il dira « Si les rois d'Israël qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. » Oui, il était le roi d'Israël. Mais en tant que roi, il avait choisi de rester sur cette croix. Et ce qui le retenait sur cette croix, ce n'était pas les clous, ce n'était pas les pharisiens, ce n'était pas le jugement de Pilate. Ce qui retenait Jésus sur la croix, on a vu que c'est lui qui dominait, c'était uniquement son amour pour nous. Et qu'il voulait mourir lui-même pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés. En sorte que ce qui a crucifié Jésus, c'est nos péchés. Mais c'est lui qui l'a accepté. C'est le choix volontaire qu'il l'a fait. Et on voit que sur cette croix, Jésus dira, « Père, pardonne-leur. » Quels sont les mots qu'il dira ? Le roi des rois, en train d'être crucifié sur un bois, entre deux brigands, il dira, « Pardonne-leur. » Et nous voyons au final que l'autorité de Jésus, il l'a utilisée pour pardonner. Et même à un brigand qui sera sur la croix, pendant son agonie, il nous est dit que l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce brigand, il avait compris que tout ne s'arrêtait pas à la croix. Il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Je crois que s'il ne croyait pas à la résurrection, il n'aurait jamais dit cette parole-là. Puisqu'il en appelle au règne de Jésus. Il avait compris que même sur cette croix, Jésus régnait. Et qu'il avait accepté de payer ce prix pour nous. Et Jésus va lui dire, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et au final, cette autorité sur la croix, Jésus va l'utiliser pour sauver ce brigand. Mais plus que ce brigand, tous ceux qui, comme ce brigand, disent, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et Jésus, à un moment, après un cri, va expirer et va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et au final, celui qui a la domination, celui qui était annoncé, celui qui avait tout pouvoir, celui qui dominait la tempête, dominait les anges, dominait les démons, dominait la maladie, dominait tout ce qui peut exister, a choisi de mourir sur cette bois pour nos péchés. Mais il nous est dit que le troisième jour, le premier jour de la semaine, des femmes se rendirent au sépulcre de grand matin portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Il est ressuscité. Et nous voyons au final que même la mort n'a pas retenu Jésus, mais qu'il est ressuscité. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus-Christ, après être ressuscité, apparaîtra aux disciples. Et Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, ou entre autres, toute autorité. Et sachez bien que ce soir, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, et que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et quoi qu'il se passe dans ce monde, quel que soit le plan des nations, quel que soit ce que les hommes ont choisi, Dieu règne. Et même si aujourd'hui, comme on l'a entendu, les gens fêtent la mort, Dieu n'en est pas moins celui qui règne. Jésus n'en est pas loin celui qui règne sur notre pays, celui qui règne sur notre ville, celui qui règne ici. Il a toute autorité. Et au final, comme les pharisiens et les disciples ont eu le choix de se soumettre ou de résister à cette autorité de Dieu, nous aussi nous avons le choix. Comme certains disciples, on pourrait dire, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais d'autres peuvent dire, nous n'avons de roi que César. Ou nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, comme c'est exprimé dans une parabole. Et on voit au final que depuis, les disciples prêchent la résurrection de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait pour eux. Et à un moment, il y a un de ses disciples qui s'appelle Paul, qui va dire en Grèce, à Athènes, il va dire que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, je pourrais dire à Toulouse, le 31 octobre 2019, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et au final, oui, cette autorité, Jésus l'a utilisée pour nous bénir, pour aller à la croix pour nos péchés. Mais ce que Dieu demande aux hommes, c'est de se repentir des péchés. Parce qu'un jour, il y a un jour qui est fixé où il jugera le monde, où il nous jugera nous. Et au final, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et au final, nous avons le choix, soit de nous soumettre à Jésus-Christ, de renoncer au péché et de l'accepter à la fois comme Seigneur et Sauveur, soit je peux lui résister et continuer à vivre comme s'il n'était ni mon Sauveur, ni mon Seigneur. Mais sachez bien que si Dieu vous laisse le temps et vous laisse cette liberté, c'est parce qu'il patiente, parce qu'il désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Et si le Seigneur patiente, si le jugement n'est pas encore arrivé pour nous, c'est qu'on a cette possibilité de nous repentir, de renoncer au péché et de choisir Jésus comme sauveur et comme Seigneur. La Bible nous dit « Approchez-vous du trône de la grâce ». Aujourd'hui, le Seigneur est sur un trône, il règne, mais c'est le règne de la grâce. C'est-à-dire que Dieu, avec toute sa domination, son autorité, Jésus-Christ a choisi de régner dans la grâce. C'est-à-dire qu'il utilise son autorité pour faire grâce. Et si Dieu veut vous faire grâce ce soir, personne ne peut s'opposer à lui parce qu'il est Dieu. Si vous vous approchez de lui et que vous lui demandez de vous faire grâce, il fera grâce. Parce qu'encore aujourd'hui, il est assis sur le trône de la grâce et il a autorité sur vos vies. Et s'il dit un mot, ça s'accomplira sur votre vie. Mais un jour, il s'assiera sur le grand trône blanc. Et à ce moment-là, ce ne sera plus le temps de la grâce, mais ce sera le temps du jugement. Donc la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais acceptez cette grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, et parce qu'elle nous montre, Seigneur, que tu règnes, mais que dans toute ta puissance, dans toute ton autorité, Seigneur Jésus, tu as choisi la croix. Tu as choisi de mourir pour nous. Et oui, cette croix, elle était pour nous, Seigneur, comme on l'a chanté. C'est le prix de notre péché, c'est le prix de notre infamie, Seigneur. Mais merci parce que tu as accepté de le payer. Merci, Seigneur, parce que tu domines. Et encore ce soir, maintenant, sur tous les hommes, en tout lieu, tu règnes. Tu as autorité, Seigneur. Et merci parce que ta parole nous dit que tu as choisi de faire grâce. Et Seigneur, nous sommes devant toi. Et ce que nous voulons te demander, Seigneur, c'est que tu puisses faire grâce dans nos vies. Tu puisses faire grâce dans tous les domaines, Seigneur. Mais ce que nous voulons, c'est pas seulement compter sur ta grâce, mais aussi nous soumettre sous ta puissante main. Tu dis dans ta parole de nous humilier sous ta puissante main, de nous décharger sur toi de tous nos fardeaux. Car toi-même, tu prends soin de nous. Et merci Seigneur, parce que tu ne veux pas seulement être un roi, mais tu veux aussi être un père, un bon berger, comme on l'a entendu, Seigneur. Et merci parce que tu n'es pas un Dieu qui est dur, mais tu es un Dieu qui nous aime et qui a payé le prix pour nous. Alors Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta parole qui nous rappelle ces choses, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Amen.